La semaine passée, Aubry et moi, on vous parlait de Planète, de Momoko Seto, et on poursuit encore aujourd'hui sur cette dynamique cosmique avec toi, Juliette, pour évoquer Projet Dernière Chance, un film blockbuster américain dans tout ce que ça a de plus classique. Donc tout comme Les Rayons et les Ombres, d'ailleurs, ce long film, qui dure 2h36, nous fait voyager dans le temps, alors non plus sur le mode du retour dans le passé, cependant, mais en anticipant un futur proche, en fait même un présent alternatif, quasiment, où la Terre est en danger du fait, tenez-vous bien parce que c'est un prédicat qu'il faut réussir à accepter, du fait d'une bactérie qui, dans l'espace, mange les étoiles et aussi les planètes. Enfin, je vais pas vous mentir, c'est pas très clair. J'ai mis du temps à comprendre et je suis encore pas très sûr d'avoir compris ce que ce terme de bactérie astrophage voulait dire. Si cela, en fait, n'impliquait que la mort de notre Soleil ou bien aussi celle des planètes. Mais au fond, ça n'a pas une si grande importance que ça. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ces bactéries, elles s'attaquent au moins au Soleil, donc, et que de ce fait, la Terre risque de bientôt connaître un refroidissement climatique dramatique. Et en conséquence, une famine, la mort, la fin du monde.
Génial.
Et il semble que nous ne puissions rien y faire puisque il n'y a pas un seul système de corps céleste dans l'univers qui ne soit atteint, sauf une planète, une seule, qui semble résister dans le système de l'étoile Tau Ceti, à 11 années-lumière de la Terre, donc grosso modo ça prend 11 ans pour y aller, et tout cela on l'apprend progressivement, puisque fonctionnant en flashback, le film débute en fait dans le vaisseau spatial Hail Mary, soit en français Je vous salue Marie, qui a été renommé Dernière Chance hein, dans les sous-titres et dans le titre du film, alors que Projet Je vous salue Marie, bref, pourquoi pas. Dans ce vaisseau, donc, puisque où commence le film, il y a un homme qui se réveille, un homme à qui le coma artificiel où il a été plongé a occasionné des pertes de mémoire temporaires et qui ne se rappelle plus l'objet de la mission. Qui, pour des raisons scénaristiques, lui revient assez vite, c'est celui que je viens de vous donner, ni comment il s'est retrouvé dans ce vaisseau, alors que tous les flashbacks le montrent refusant catégoriquement d'y monter. Cet homme, c'est Ryland Grace, et c'est quasiment l'anagramme de son interprète Ryan Gosling, un scientifique un peu maladroit, un peu goofy, un peu nice guy, très attachant et paradoxalement pas très sociable, puisqu'il a aucun ami alors qu'il est hyper amusant, ce qui est un peu étonnant. Et il est donc de tous les plans quasiment hein, de ce projet Dernière Chance, que ce soit dans l'espace ou bien dans les flashbacks qui se passent sur Terre, dans un complexe militaro-industriel, un porte-avions de coopération internationale, on peut toujours rêver, une zone d'intérêt dirigée par l'allemande Eva Stratt, incarnée par Sandra Hüller pour sa première apparition dans un vrai gros blockbuster américain. Le one-man show Ryan Gosling est cependant évité grâce à deux choses. D'abord par ce système de flashback régulier, qui d'ailleurs réussissent à éviter la lourdeur souvent caractéristique de ce genre de dispositif. Ensuite, parce que dans l'espace, Ryland fait une rencontre inattendue qui va peut-être lui permettre de mener à bien cette mission. Bon, tout ça est un petit peu compliqué et j'avoue que c'était pas si simple que ça de résumer le film. Et son scénario, d'ailleurs, j'en conviendrai, n'est peut-être pas sa force principale non plus. Pardon. C'est souvent un peu inutilement alambiqué, comme dans tout film de science-fiction, comme dans tout film de science-fiction, pour peu qu'on y réfléchisse, des incohérences font vite jour, mais bon, bah, on s'en fout. Enfin, personnellement, je me fiche un peu de ses défauts, tant c'est un film qui m'a sincèrement enthousiasmé. Alors, je le disais hein, la semaine dernière, pour Planète, moi, l'espace, ça me fascine, voilà, j'adore les films qui s'y déroulent, j'ai créé en moi le souvenir d'une visite, j'étais tout petit, au planétarium de Vaux-en-Velin avec mon grand-père. Bref, vous vous en foutez, mais tout ça pour vous dire que, déjà, les scènes dans le cosmos de Projet Dernière Chance, que ce soit le vide interstellaire ou une sublime planète verte et orange, eh ben, j'étais vendu sur mon siège du pâté Bellecour. Car, outre son personnage attachant, son dialogue fertile avec une histoire récente de la science-fiction spatiale, et surtout son optimisme naïf mais réconfortant, je commencerai cette discussion en vous faisant part, chers auditeurs, chères auditrices, Juliette, de mon émerveillement sincère devant ce film qui m'a tout simplement, et à plusieurs reprises, laissé souriant, enthousiasmé, je le disais, par la puissance créative et créatrice qu'il déployait et à laquelle les réalisateurs Christopher Miller et Phil Lord, qui ont notamment réalisé La Grande Aventure Lego, se sont laisser aller. Mais ça, il y a des trucs à dire sur le lien avec La Grande Aventure Lego. Assez banal dans ses séquences sur Terre, le film est beau, voire allez, je vais le dire, magnifique dans ses passages spatiaux, dans sa présentation de notamment de la civilisation extraterrestre que Ryland va rencontrer, merveille de minéralité et de vibration, le vaisseau en l'occurrence donc qui va rencontrer, oui je le disais, dans les planètes qu'il invente et dans le choix que le film fait aussi de ne pas sonoriser les séquences dans l'espace. À juste titre, puisqu'il n'y a pas d'air dans l'espace, et donc ça ne permet pas de produire, et a fortiori encore moins d'entendre du bruit, ce qui laisse donc place à quelques rares instants de pur couvert, souvent par une musique qui est, cela dit, réussie, et signée Daniel Pemberton. Bref, assez parlé, oui je parle beaucoup, je commence à ressembler à Ryan Gosling, d'ailleurs physiquement je pense que je lui ressemble un petit peu, avec mes lunettes, regarde si je mets mes cheveux mal. Non, bref, je plaisante. Juliette, la parole est à toi. As-tu été convaincue ou non par ce projet Je vous salue Marie?
Oui, globalement, j'ai été convaincue par ce projet. Alors, je crois que je n'avais pas conscience. En fait, je n'avais pas énormément déjà d'attente sur ce film, comme souvent quand je vais au ciné. Mais là, surtout, je ne m'étais même pas posé la question de si ça allait être un blockbuster ou pas. Alors que l'affiche criait blockbuster.
Oui, elle est moche hein, d'ailleurs.
Ouais, elle est vraiment moche. Et bref, donc oui, j'ai été face à un blockbuster américain de 2h30. C'est fun, ça passe vite, c'est dynamique. Globalement, j'ai passé un très bon moment. Moi, le début m'a agréablement surprise en plus parce que je trouvais que en fait, les cadrages et la musique étaient quand même un peu étonnants, enfin, dans sa manière de découvrir un peu le V-mémoire au début et qui juste il se réveille dans cet endroit dans l'espace. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait quand même un peu des jeux de caméra intéressants et je sais pas, c'était cool en fait, genre vraiment, ouais. J'ai bien aimé. Et même cette musique du début, bon, qui m'a pas tout le temps séduite, mais les moments où ça fait un peu percussion slash musique d'ascenseur, je trouve ça très sympa. Les moments où il y a des un peu branlés, mais globalement, au début, j'étais vraiment en mode, mais ok, je rentre dans une atmosphère vraiment inattendue et qui me plaît. Sachant que moi, de base, je suis hyper cringe par les films d'espace. Voilà, ça m'a pas du tout. C'est-à-dire que je trouve ça vertigineux, ok. Il y a un imaginaire derrière qui pourrait me plaire, sauf qu'en fait, je pense que je me suis jamais remise d'Interstellar, quoi. Enfin, ça a été un vrai trauma dans ma vie. Alors que pourtant, je crois que sur le moment, j'avais aimé Interstellar. Mais en fait, je trouve que très rapidement, dans les films d'espace, pas de science-fiction, vraiment d'espace, je trouve. On a tendance à aller déjà vers un émotionnel énorme parce que c'est toujours des gens qui sont loin de chez eux. Donc là, il n'est pas loin de ses proches, mais bon, il y a quand même le sentiment d'arrachement et tout à la Terre qui est toujours couplé avec une sorte de fausse intelligence, genre des explications scientifiques un peu vulgarisées, des incohérences, mais en même temps, on essaye de te faire comprendre des trucs un peu compliqués et ça me saoule de fou. Et je trouve que voilà, dans ça, le film n'a pas échappé à pas mal de clichés, donc des clichés émotionnels avec une scène d'au revoir qui est hyper longue.
Ah oui, ouais, non.
Qui est vraiment ok, là il y a vraiment 2 minutes 30 de trop et je le sens, alors que pourtant avant j'étais séduite par la relation, mais là voilà. Mais surtout, en fait, la scène du début, la scène où tout le monde débarque dans son collège où ce pauvre prof taf et globalement on lui dit genre la Terre a besoin de toi. Waouh, ça j'étais en mode mais qu'est-ce que je regarde ? Là pour le coup, je commence à être un peu bon. Mais cela dit, Ryan Gosling est extrêmement sympathique, enfin, il est tellement génial, c'est vraiment une bonne poire dans ce film. Il se retrouve un peu là, juste dans l'espace, alors que du coup il le voulait pas particulièrement, et en fait il y a un humour et un sarcasme chez cet acteur qui est génial, enfin, qui est tellement divertissante, je trouve. Et c'est vrai que moi il y a beaucoup de moments que j'ai trouvé très beaux, quand à compte de... Est-ce qu'on peut dire un peu...
Oui, on peut le dire, on peut le dire.
Donc, avec cette alien qui ressemble à une sorte de...
De caillou.
De caillou, voilà. Il s'appelle tout simplement Rocky, pour cette raison. En fait, j'ai trouvé ça génial, parce que je trouvais que... en fait, ça me posait des questions. Parce que vu que ce mec est Ryan Gosling, je veux dire, grave dans la débrouille et tout... quand il a commencé à essayer de se débrouiller pour chercher à communiquer avec lui, etc., en fait, je trouvais ça hyper satisfaisant à regarder. Et je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de touchant qui se passait. L'imaginaire aussi autour de la planète de Rocky et du vaisseau, tu l'as un peu évoqué, je trouvais ça hyper cool. Voilà, et en fait, je trouve que rapidement, on se rapprochait d'une vibe très E.T., ce qui m'a un peu déconcerté. Alors que moi, de base, vraiment, j'étais en mode, bon, j'espère que le truc va pas trop partir dans un interstellar. Et en fait, du coup, à ce moment-là, non. Enfin, ça faisait vraiment juste E.T. téléphone maison, mais littéralement, quoi. Et ça m'a vraiment plu. et même, enfin, je sais pas, les vannes sur les voix et tout. J'ai bien aimé la vanne sur Meryl Streep, ça m'a fait marrer. Voilà, je vais juste finir par un petit. Ouais, je vais finir mon tunnel par un petit point négatif quand même, qui est que même si c'est beau, je trouve, enfin, il y a quand même une absence de discours derrière qui est un peu impressionnante. Alors même que, enfin, j'en attendais pas particulièrement, hein, mais enfin, le truc se passe quand même alors qu'on essaye de sauver une terre qui est dans une période de changement climatique. Enfin, voilà, les parallèles sont pas aberrants et en fait, ouais, enfin, il y a pas de propos. Voilà.
Non, il y en a pas, il y en a d'autant moins, et on pourra peut-être revenir là-dessus aussi que c'est Amazon qui produit le film.
Oui, bon.
Donc forcément, voilà. Mais du coup, voilà, c'est vrai, ça, oui, c'est oui, ça qui est intéressant, c'est que le changement climatique du film, il est aussi dû à une cause cosmique contre laquelle apparemment on ne pourrait rien. Ce qui, quand on se dit que le film parle depuis Amazon, a quelque chose d'intéressant. Mais pour revenir sur ce que tu disais. Tu parlais des problèmes que tu peux avoir notamment avec les films d'espace, et je suis d'accord avec toi. Moi, notamment, un des problèmes que j'ai souvent, c'est le côté comment dire, le grandiloquent de l'espace spatial, si je puis dire, se communique parfois au récit qu'on nous raconte, aux personnages aussi. Donc on a un héros surpuissant. Alors j'ai pas vu Interstellar, mais c'est comme ça que je vois le
ah, t'as pas vu Interstellar?
J'ai pas vu Interstellar.
Ah, c'est excellent.
Okay. Parce qu'en fait, je l'ai pas vu quand il est sorti, et depuis, ouais. Je me dis, j'aimerais autant le capter au cinéma que de le voir sur une télé ou autant. Donc okay. Mais donc ouais, j'ai pas vu Interstellar, mais c'est comme ça que je vois le héros d'Interstellar. C'est comme ça que il y a plein de films dans l'espace, ou Sunshine de Danny Boyle. C'est un peu le même truc, avec vraiment un héros qui est naturellement héroïque. Ouais. C'est son essence d'être un héros et de sauver le monde. Alors, on a ici l'enjeu sauver le monde. Mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est dans ce film-ci, c'est la construction de ce personnage principal de Ryan Gosling. Parce que je disais que Christopher Miller et Phil Lord étaient aussi les réalisateurs de La Grande Aventure Lego. Et d'une certaine façon, ça se sent ici pour deux raisons. Alors, d'abord... parce qu'il y a une espèce de joie, je trouve, des réalisateurs dans la création d'un monde, d'un univers, petite astuce, d'une histoire qui est comparable en fait à celle du petit garçon qui jouait au Lego à la fin du film Lego. Oui, je spoil, mais le film est sorti il y a 12 ans, donc à un moment, voilà, chers auditeurs, chers auditrices, fallait se brancher, il serait temps de se réveiller. Mais de façon plus intéressante, la morale du film Lego, beaucoup plus direct, qui était un film beaucoup plus directement dirigé vers les enfants, donc il y avait... c'était une célébration de l'invention qui était portée par la singularité du héros, un mec paumé, maladroit, mais plein de bonne volonté. C'est une espèce de morale américaine, de l'average Joe, du mec lambda, qui se découvre un courage qui permettra de sauver l'humanité, mais dont il n'était pas investi avant que le film ne commence. Une sorte de récit méritocratique, en fait, où Emmett, le petit personnage Lego, comme ici Ryland Grace, prouve que chacune peut être un héros quand les circonstances le requièrent. Et en ce sens, Projet Dernière Chance, c'est un film qui est typiquement américain, mais le meilleur sens du terme, donc sur une échelle de valeur qui n'est pas forcément universelle. Il part ce film et il professe des bonnes intentions et qui sont loin forcément faire du mauvais cinéma. Je trouve qu'il y a dans ce film une espèce d'éthos de la simplicité naïve qui est appréciable. On peut lui reprocher, bien sûr, d'être tout de même trop naïve, c'est ce qu'on disait quand c'est Amazon qui produit. Mais le temps du film, c'est agréable d'avoir des réalisateurs qui semblent animés de ces mêmes bonnes intentions que leurs personnages, et d'entendre venir d'outre-Atlantique un discours qui ne déclare pas, comme le fait l'administration fasciste au pouvoir, que le courage ou même la valeur soit réservé à une élite de personnes, qu'en fait ce soit une question de gêne, ce qui est un discours qui revient très régulièrement dans la bouche de Donald Trump, de Pete Hegseth et des autres, que le courage, l'héroïsme, c'est une question de gêne, alors que là, le film il nous dit ça peut se trouver, ça peut se construire. Avec donc ce personnage de loser. Et c'est mieux évidemment, comme Emmett le Lego et comme Ryan Gosling, ce héros il est blanc et masculin, etc. Mais c'est vrai que tu parlais de l'absence de message, même si Projet Dernière Chance est tout à fait apolitique, c'est d'une certaine façon plus reposant par exemple que Marty Supreme et sa démolition du héros méritocrate, démolition certes beaucoup plus lucide, beaucoup plus puissante aussi sur un plan politique, mais beaucoup plus cynique.
Oui, c'est vrai que... Oui, il y a quelque chose d'un peu étonnant, et je vais être super littéraire, mais il y a une sorte de démolition du héros.
Bien sûr.
Les meilleurs l'ont dit dans ce film,
Bénichou.
Mais cela dit, je trouve que en fait c'est très, ça me paraît pas être tant une originalité, étant donné que j'ai l'impression que Ryan Gosling est tout le temps dans ce genre de rôle. Et je pense même pas à des trucs en mode Barbie et tout, où en vrai, c'est... Enfin, il y a toujours un côté un peu voilà, humoristique qui, en fait, questionne ce personnage. Voilà, c'est pas juste l'incarnation de la masculinité. Par exemple, dans Barbie, on retravaille un peu ça. Mais même dans des films qui sont censés être de bad boys ou de héros comme les Nice Guys, dont j'ai un souvenir un peu lointain, mais je me rappelle que ce qui m'avait plu dans ce film, c'était justement le fait qu'on a l'impression des fois que le personnage se prend pas au sérieux. Enfin, voilà, je trouve que cet acteur, de manière générale, a une aura qui fait que voilà, c'est ce genre de rôle qui le suivent, oui c'est ça, et que du coup en fait ce qui paraît être subversif me paraît être un faux subversif quoi, et que je trouve qu'on retourne quand même dans un truc en fait très bateau, alors même qu'au début il y a quelque chose d'un peu étonnant dans la manière dont agit ce personnage, et je suis d'accord, on s'attend pas particulièrement à ça, enfin voilà, encore une fois on s'éloigne d'Interstellar, enfin de la vision dont t'en as, mais de la vision de ce qu'est en fait Interstellar, où c'est sûr que voilà, c'est vraiment genre le héros avec tout ce qu'il y a d'insupportable avec quoi. Donc oui, je suis d'accord, mais voilà, je trouve que c'est en fait, je trouve que c'est pas un film intéressant. Oui. En fait, il m'a intéressé les premières minutes où je me suis dit qu'il y avait voilà, quand je parlais de la première séquence où je me suis dit ah, en fait, il va peut-être se passer quelque chose, et même si voilà, il y a de la beauté dans la constitution de cette alien, etc., et qu'il y a quelque chose de très beau et très simple, tu l'as dit dans cette relation qui se tisse, je trouve que voilà, le film est quand même pas surprenant, et aussi en fait la manière dont il est construit est tellement évidemment didactique aussi, je trouve que ça aide pas du tout. Voilà, où en fait c'est quand même un peu lourd en termes de narration avec ses flashbacks et vraiment ouais, ces changements de couleurs et tout, enfin bref, ouais, déjà ça me gêne quand il y a des flashbacks et que la colorimétrie change, enfin direct c'est en mode ouais ok, bon là on c'est pas fin quoi, et voilà, et le fait que ce soit un prof qui du coup de base en fait va expliquer à ses élèves le problème, bah voilà, déjà on rentre dans cette vulgarisation scientifique où vraiment le truc nous est expliqué de manière encore une fois pas du tout fine, qui est vraiment redoublé par le mec qui perd sa mémoire et qui du coup en fait pense à voix haute, d'autant plus qu'il doit se filmer pour l'envoyer à la Terre, donc en fait on a encore une fois d'autres explications qui surviennent, ce qui fait que ouais, je trouve que ça peut perdre en finesse, en originalité aussi, et que en fait très rapidement on revient dans un film d'espace classique, mais avec Ryan Gosling quoi.
Je vois ce que tu veux dire, et en vrai je suis d'accord, parce que en fait, bah, on parlait de Marty Supreme, enfin j'évoquais Marty Supreme et Elise le faisait tout à l'heure dans l'autre partie de l'émission, mais en fait c'est encore un film, celui-là, qui repose beaucoup sur la porosité entre son héros et son acteur, en tout cas dans la persona d'acteur de Ryan Gosling, qui jouait exactement ce que tu disais, ce rôle de nice guy, et même si c'est un hasard du livre dont Projet Dernière Chance est adapté, le fait que le héros s'appelle Rylan Grace, qui ressemble quand même pas mal à Ryan Gosling,
c'est sûr qu'on n'imagine pas le film sans lui en fait.
Bah, en fait c'est ça, exactement, et là il retombe dans son même rôle quoi, de nice guy, ni incel ni don Juan, presque asexué en fait,
mais espèce oui, grave. On a l'impression qu'il y a une petite brèche à un moment vers une relation,
exactement,
en fait,
exactement, c'est ça qui moi je trouve est intéressant, cette espèce de version Amazon capitaliste family friendly du conducteur de Drive en fait, et qui de qui est dans le sens en fait du pari sur l'avenir ultra naïf de Projet Dernière Chance, bon qui est là moins convaincant, mais je veux dire de cette espèce de d'un pari sur l'avenir, ouais, qui implique cette figure d'une masculinité positive, mais positive parce qu'inoffensive, presque enfantine.
Ah,
enfin, je veux dire, on retombe un peu sur les Lego, quoi. C'est les personnages du film, les hommes du film, ils sont dans une logique de bac à sable presque, avec Rylan Grace, mais aussi Carl, l'extraterrestre Rocky. Enfin, leurs relations, elles sont d'abord ludiques et amicales et pas autre chose. Et d'ailleurs, c'est assez caractéristique parce qu'un soir où tout le monde est en train de se pécho sur le porte-avions parce qu'il y a ce pressentiment de la fin du monde, ce qui aurait pu être assez beau en fait, que quelque chose se passe pour notre héros là, bah Ryland il reste tout seul, et le féminin, et je vais avoir l'air de faire de la psychanalyse en disant ça, mais dans ce film il est réduit à une figure presque castratrice, puisque la seule figure féminine du film c'est Sandra Hüller, donc qui incarne une femme froide, qui a grandi en RDA, qui ne fait pas de vannes, voire qui ne comprend pas l'humour comme l'extraterrestre d'ailleurs, et en fait cette impression de voir le féminin comme un extraterrestre, comme un enfant peut le voir, avec donc cette figure d'Eva Stratt, Sandra Hüller, qui est plus maternelle qu'un sujet romantique, et même le couple dont il est fait mention dans le film, qui est le couple de Rocky, en fait c'est des, ça se ça se comprend en des termes qui sont hors de notre portée, comme les enfants pourraient parler de se marier à 6 ans, quoi. Là, parce qu'effectivement, Rocky, son couple, il est avec la Adrienne depuis 186 ans, donc c'est un truc qu'on n'appréhende pas, quoi. Donc, il y a quelque chose, en fait...
Même vu qu'en plus, il n'y a rien de sexuel, pardon, je te coupe.
Oui, non,
dans,
vas-y.
Dans ce rocher, littéralement.
Oui, c'est ça.
On ne peut pas se dire que... Enfin, voilà, il y a... C'est hyper... comment dire ouvert au public enfantin, parce que voilà, si la seule personne en couple ressemble à un bout de roche, finalement c'est pas très charnel, quoi.
Non clairement pas, c'est clairement pas charnel. Et puis comment dire, même dans les vannes du film, dont on pourra dire un mot parce que moi je les trouve assez chouettes, mais dans les vannes du film il y a aucune vanne sexuelle, il y a même pas l'humour gras américain qu'on peut parfois trouver dans les films des frères Farrelly, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a tout un long moment où il commente le fait qu'ils doivent partager le vaisseau comme dans une coloc avec Rocky. Mais là, il n'y a pas une seule vanne de cul, ce qui n'est pas très grave, mais ce qui est symptomatique aussi de ça. Et après, voilà, je dis Sandra Hüller, elle n'est pas totalement sacrifiée, parce qu'à mon sens, il est donné le vrai beau moment d'émotion du film. Assez étonnamment, d'ailleurs, quand on y pense, puisqu'il s'agit d'une scène de karaoké sur une chanson de Harry Styles.
Ouais.
Et là, d'ailleurs, un pont assez inattendu se crée avec Scarlett et l'éternité. J'espère que Mamoru Hosoda a pris des notes sur la façon dont une chanson pop peut apparaître de façon incongrue dans un film et rester émouvante. Puisqu'ici, cette irruption de Sign of the Times, elle est aussi incongrue que la chanson de J-pop dont on parlait la semaine dernière. Mais elle fonctionne mieux parce que on a pris le temps de connaître un petit peu ce personnage, de savoir qu'elle a chanté dans une chorale est-allemande dans sa jeunesse, que cette chanson hyper mainstream détonne totalement avec sa personnalité et qu'elle exprime une sorte de sentiment qui fait l'humanité de son personnage, ce qui n'était pas du tout présent dans l'animé dont on parlait avant.
Ouais, moi je suis hyper d'accord. Cette scène, moi de base, il faut sachez qu'il y a deux choses qui me cringe au-delà des films d'espace. C'est les scènes dans les films où les gens font des discours. Genre par exemple, quand c'est, je sais pas, le prom ou un truc comme ça, et que cette bonne élève fait un discours face à sa promo, ça me gêne atrocement. Et autre truc qui me gêne, les gens qui chantent dans les films. Voilà, ça c'est vraiment le duo qui m'achève à chaque fois. Et là, alors les 10 premières secondes, je suis en mode « qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils se mettent à faire ça ?» Mais en fait, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça mimi, et c'est vrai que il y a ce truc un peu de contrepoint, où c'est cette femme très froide, cette scientifique en plus un peu badass qui se met à chanter du Harry Styles. Avec en plus, c'est vrai que ça m'a choqué sur le moment à quel point les lyrics entrent grave en résonance en fait, avec l'espace tout simplement. J'ai trouvé ça assez juste. Mais globalement, oui, c'est ce qu'on disait, quoi. Toutes les relations humaines ou d'ailleurs pas que humaines d'ailleurs dans ce film sont assez bien construites et c'est vrai que c'est très agréable. Alors même que ça aurait pu tomber, je trouve, encore plus dans un cliché, parce que, encore une fois, on a dit, il y a quelque chose de très didactique dans ce mec, cette bonne poire qui est un prof et qui, du coup, va nous expliquer ce qui se passe dans le monde, etc. Et qui aurait pu juste être ce personnage bon, tourné vers les autres, qui a certes pas de famille, mais qui est dévoué pour les enfants dans sa classe. Et en fait, on tombe pas là-dedans. Et en fait, je trouve qu'au fur et à mesure, le personnage apprend à évoluer pour être justement ce cliché du bon prof dévoué, généreux, courageux. Enfin voilà, bon, là je maxe un peu ce qu'est un prof, mais bref, je trouve qu'il rentre dans un peu le cliché de ce où on aurait pu l'attendre au début. Voilà, dans une évolution du personnage que je trouve cohérente. Vraiment très bien construit, avec des attachements qui sont hyper incongrus, notamment à un rocher, mais où en fait on y croit, et où je trouve, ça pour le coup je ne vais pas révéler la fin, mais où les dilemmes dans lesquels il se trouve à la fin et les choix qu'il fait, en fait sont pas tant clichés, je trouve, sont cohérentes tout ce qui a été construit avant. Donc c'est vrai que pour ça c'est top. Et encore une fois, je trouve que Ryan Gosling y est pour énormément, hein, parce que... encore une fois, il y a plein de prises de parole que moi je trouve un peu un peu lourdes et tout, mais où c'est vrai que en fait c'est vraiment le jeu qui prime, et c'est vraiment le jeu de Ryan Gosling, parce qu'en fait on peut même pas parler d'un jeu pour le rocher, étant donné qu'il a la voix d'un bot, même s'il a failli avoir la voix de Meryl Streep, ce qui aurait été génial.
Oui, c'est vrai que c'était terrible. Pourquoi ne pas l'avoir choisi, de
bien
pas l'avoir
sûr
gardé.
Pitié, ça aurait été fantastique, mais bref, ce qui fait que vraiment Ryan Gosling est seul au monde dans ce jeu et cette humanité, et que il porte absolument tout le film, quoi.
Non, c'est très vrai. Peut-être moi sur un dernier point sur ce film, on a beaucoup parlé des personnages de Ryan Gosling, etc. Un petit peu de l'esthétique du film, tout simplement de la DA du film, direction artistique. Et moi, ce que j'ai effectivement sur la question de la DA du film, je trouve qu'il y a un dialogue assez intéressant et qui dépasse le seul stade du mood board, du tableau d'idées et de références picturales et filmiques, non mais on m'a reproché de dire des mots sans les expliciter, donc désormais je le fais.
Ah ouais, genre moodboard.
Et DA.
Donc génial.
Donc bref, je trouve qu'il y a un assez intéressant dialogue avec une généalogie de films dans l'espace et de films de fin du monde, mais effectivement sur un mode encore une fois finalement commercial et inoffensif. C'est ça qui limite un petit peu la célébration de ce film, ouais. Et le fait que, enfin, quand on va sur des réseaux comme Letterboxd par exemple, les gens grappent au cocotier, enfin, crient au chef-d'œuvre et notent le film 4,4 sur 5 en moyenne.
J'ai vu ça tout à l'heure. En vrai, l'abus.
Là, c'est un abus. Je comprends que ce film soit agréable dans l'époque où dans laquelle on vit. Maintenant, faut pas exagérer. Effectivement. Le plaisir que tu prends au film, c'est un plaisir non intellectualisé, non médié à regarder, et s'il convoque des références, c'est plus pour une puissance visuelle que pour donner un sens profond au film, ou bien sinon pour un peu si on veut vraiment lui trouver des points positifs, les resémantiser, leur donner un nouveau sens, une force de premier degré en fait, et de joie un peu anti-tragique. Parce que voilà, la salle où Ryland peut s'immerger dans des images de la Terre, c'est la scène de mort dans Soleil Vert.
Exactement, c'est la même chose.
Exactement, mais sans la tragédie du télescopage de la mort d'un monde et de la mort d'un personnage. Et la scène de décryptage du langage de Rocky, ce que tu disais, qui est assez agréable, jouissif même à regarder et se faire, c'est l'intégralité de film Premier Contact de Denis Villeneuve, sans la tragédie de l'incompréhension et la tragédie des réalités géopolitiques qui là sont effacées. C'est vraiment, on a l'impression que l'ONU marche du tonnerre.
Mais hyper bien. Tous ces l'ONU, gens ce qu'il a remplacé. Qui se réunissent exactement. Main dans la main au début. Non, mais c'est fou,
Et voilà, et exactement. Et enfin, le film, c'est probablement Interstellar sans la tragédie, là encore, de ce que je pense être les gros sabots de Nolan. Donc, bref, et le film, voilà, il est motivé par des gags qui ont. Je sais même pas s'ils ont vraiment une valeur plus profonde que ça, quoi. Après, mais moi j'aime bien effectivement le choix parfois de raconter l'histoire sur le mode du vlog, qui donne un certain intérêt médiatique, un peu, enfin d'immédiateté, de nous permettre de nous lier plus directement encore avec ce personnage, comme s'il faisait des lives Instagram alors qu'il enregistre pour un iPad qui en soi sera lu par des terriens qu'il ne reverra jamais. Mm-hmm. En fait, c'est ça puisqu'il va envoyer, enfin le projet est d'envoyer une petite navette et pas le vaisseau en lui-même.
Ouais.
Et que les gens qui sont à l'intérieur doivent décéder. Donc. Et effectivement, en fait, là encore, il pourrait y avoir quelque chose de très tragique, de très pathétique, de très larmoyant, je fais des vidéos que vous lirez et je serai décédé. Mmh. Et en fait, non, c'est juste, encore une fois, et là, on retombe sur nos pattes, Ryan Gosling qui...
tout son sarcasme, genre.
Exactement.
Non, mais oui, je suis d'accord. C'est vrai que quand je suis allée au cinéma ce matin, mes parents m'ont demandé de leur dire après si ça valait le détour et tout. Je pense pas que je vais leur dire que ça vaut le détour. Enfin, à part s'ils sont dans cet état d'esprit très, très précis qu'on a décrit à l'instant, de vraiment juste vouloir profiter d'un film qui est agréable avec un Ryan Gosling face à nous pendant 2h30. Et en fait, voilà, c'est à peu près tout. Et c'est déjà bien. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai... Ouais, le surenthousiasme sur Letterboxd m'a pas grave convaincu. Et je trouve qu'il témoigne aussi de comment on a envie de le noter quand on sort de la salle de cinéma, parce qu'en vrai c'est vrai que je trouve qu'on a le sourire aux lèvres et que voilà, c'est cool. Et en plus, vu que c'est un peu long, on a vraiment le temps d'être immergé dans ce truc là enfin voilà, en ça c'est vraiment très bien fait.
Il y a le worldbuilding qu'il n'y avait pas la semaine dernière,
voilà, exactement. Mais bon, je sais pas si on en reparle aux gens qui l'ont noté, du coup 4,5-5 dans 6 mois, s'ils s'en rappellent aussi bien et si l'enthousiasme perdure, quoi. Je sais pas à quel point, voilà, ça va être un film marquant globalement.
Et sur cette conclusion, on termine sur projet Dernière Chance et on se retrouve pour des conseils dans un instant. On se retrouve donc effectivement pour des conseils, je viens de le dire. Bah Juliette, quel est le tien? Qu'est-ce que tu nous recommandes pour cette semaine?
Oui, alors je vais revenir comme je l'ai fait il y a un peu de temps. Sur les festivals de cinéma qui se déroulent à Rennes, qui sont toujours super bien. Et du coup, j'ai eu l'occasion ce week-end d'assister à quelques projections du festival de cinéma palestinien qui se déroulait là-bas, en même temps qu'un festival de cinéma palestinien se déroulait à Paris, et un peu avant le festival qui va se dérouler à Lyon, aux Lumières, bon, qui n'est pas exclusivement palestinien, mais où il y a des films palestiniens.
Mais il y en a un Comédia aussi, qui s'appelle Palestine en vue, qui va bientôt
Génial. Se tenir. Bah, écoutez, je trouve qu'il faut qu'on continue de surfer sur cette wave, parce que je trouve ça toujours très très intéressant. Et bon, je ne vais pas vous spoiler mon projet de master, mais globalement, juste là, les films que j'ai eu l'occasion de voir, je trouve, font un traitement hyper intéressant de l'archive, notamment en fait d'une réutilisation de l'archive israélienne notamment, qui voilà, permet de questionner un regard colonial en adoptant un point de vue colonial. Donc voilà, je trouve que c'est super intéressant. Et dans ça, je vais vous reparler de Kamal El-Jafari, que j'avais déjà évoqué la dernière fois à propos de Fidaï Film. Là, j'ai eu l'occasion de voir deux de ses courts-métrages, donc UNDR, je ne sais pas comment le prononcer mieux, et Paradiso XX1 108. Bon, je pense que c'est des chiffres romains, c'est un peu la honte de l'avoir dit comme ça. Bref, qui sont deux courts-métrages qui sont très intéressants, qui donc, le premier va reprendre des archives plutôt de paysages palestiniens avec des explosions de bombes qui vont être superposées les unes aux autres. C'est vraiment les images qui m'ont marqué. Et dans l'autre, c'est assez intéressant, ils vont en fait prendre un film israélien des années 70 pour le monter et en fait montrer à quel point ce film, qui est juste un film israélien des années 70 qui parle de jeunes hommes qui font leur service militaire, donc qui est vraiment très très nationaliste quoi, et en plus on voit où c'est un peu un film à budget et tout, en fait nous dit quand même quelque chose qui est intéressant, comme si voilà il nous racontait quelque chose de ce qu'il pourtant cherche à cacher. Et donc voilà, je trouve que ces deux usages d'archives audiovisuelles qui sont très intéressants, donc je vous invite une nouvelle fois à guetter son travail. Je crois qu'il va sortir un film bientôt, là je sais qu'il est en résidence sur la capitale en France. Et voilà, je trouve que c'est un mec qui fait du super travail. Je trouve qu'il faut qu'on fasse attention à ce genre de travail qui ont l'air en marge et très expérimental aussi en plus d'extérieur, mais qui pourtant, bon, certes, ça te met dans un monde un peu méditatif, je sais pas si le mot, mais Fidaï Film, c'est quand même plus d'une heure d'une superposition d'archives non contextualisées, donc faut quand même se mettre dedans. Mais ça n'empêche que je trouve ça quand même accessible et très pertinent. D'autant plus qu'en plus, les gens qui vont à ce genre de festival sont quand même un minimum au fait de ce qui se passe, voilà, même au-delà de l'actualité, de l'histoire. Donc voilà, je trouve que ça ajoute vraiment matière à réflexion.
Merci beaucoup, Juliette. Et je disais n'importe quoi, effectivement, Palestine en vue, ça a eu lieu, c'est terminé, au Comédia. Et puisque tu évoquais le festival Cinéma du Sud de l'Institut Lumière, donc, qui est un festival de cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient, qui donc va avoir lieu dans deux semaines et qui fait partie de ma recommandation plus générale de regarder la programmation de l'Institut Lumière pour le mois d'avril et le mois de mai. Oui, c'est un petit peu corporate.
C'est carrément corporate.
C'est vrai, mais je dois avouer que rarement une programmation m'aura à ce point enthousiasmé. Il y a énormément de choses, c'est très dense sur deux mois. Des invitations à des réalisatrices contemporaines, oui, forcément. Brillante comme Lucrécia Martel ce jeudi 2 avril ou Julia Ducournau à la fin du mois de mai qui viendra dans le cadre des conférences animées par Maëlle Arnaud expliquer sa cinéphilie, donc de montrer des extraits de films qui l'ont marqué et les commenter.
Non, mais c'est énorme.
C'est fabuleux. Il y a eu Justine Trier, Rebecca Zotowski, Patrice Lecomte qui sont venus déjà dans ce format-là qui est brillant. Il y a donc trois rétrospectives. Alors une grande consacrée au cinéaste hollywoodien classique Billy Wilder, mais aussi au cinéma hongkongais et encore à Chantal Akerman, plus donc cet hommage à Lucrécia Martel qui est rendu à l'occasion de sa venue, plus des nuits diverses, plus un cycle néo-réalisme italien en ciné-club dans la petite salle de la villa. Bref, énormément de choses à ne surtout pas manquer et voilà, qui font la richesse de cette institution patrimoniale et culturelle lyonnaise. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est une recommandation un peu facile mais pas moins sincère. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.com. www.lescinemascope.fr. Merci beaucoup à toutes les deux, Élise et Juliette, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour notre 74e épisode et avant-dernier de la saison, où l'on parlera notamment de cinéma japonais avec Love on Trial, le nouveau film de Koji Fukada. Branchez-vous Transistor, donc ne manquez rien de tout cela qui sera comme d'habitude disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.